autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation. Aujourd'hui, nous vous invitons à ouvrir les oreilles encore plus que d'habitude. À la ville comme à la campagne, nous baignons en permanence dans les sons. Et tant mieux, car le son, c'est la vie. Il y a les bruits de voisinage, les jeux des enfants, les sons de la nature ou les cloches des villages. Tous ces sons éveillent des émotions et reflètent le monde qui nous entoure. Mais comment l'environnement sonore influence-t-il notre façon de vivre? Comment trouver un équilibre entre les bruits nécessaires à la vie et les zones de calme? Il faut aussi tenir compte des habitudes culturelles qui varient selon les pays. Le son s'intègre de plus en plus dans le travail des architectes et des urbanistes. Bref, quels sont les enjeux sociaux de l'environnement sonore? C'est notre question du jour. Bienvenue. Nous sommes aujourd'hui avec deux invités. Cécile Regnault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en architecture et urbanisme à l'école d'architecture de Lyon, donc vous êtes enseignante chercheuse et également conceptrice sonore. En un mot, quelles sont vos activités ?
Alors, effectivement, mes activités, c'est de transmettre une dimension qui est peu transmise aujourd'hui dans les écoles d'architecture, c'est-à-dire le son. Comment intégrer le sonore dans les projets d'architecture aujourd'hui. Et la deuxième partie de mon activité, c'est fabriquer la ville avec du son. Comment concevoir des villes en pensant aussi sonore.
Eh bien, nous y reviendrons. Notre deuxième invité, Christian Hugonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur acousticien et également président fondateur de l'association La Semaine du Son. De quoi s'agit-il?
La Semaine du Son, c'est très simple. L'idée, c'est d'arriver à prendre conscience, amener tout un chacun à prendre conscience de l'importance du sonore aujourd'hui dans un monde qui est profondément rétinien, autrement dit, où tous les gens ne font que regarder, et peut-être qu'il serait bon de mieux écouter pour mieux voir, tout simplement.
Et oui, c'est-à-dire, nous prêtons attention à ce qui tombe dans nos yeux et assez peu à ce qui nous vient dans les oreilles, et pourtant c'est fondamental, hein. Alors, la Semaine du Son, c'est une association donc, qui a pour objectif de promouvoir justement les bonnes pratiques dans le domaine du son, à la fois pour l'environnement sonore, la santé, les techniques d'enregistrement, de diffusion et de conservation du son, la relation entre l'image et le son, l'expression musicale. Hein. Et l'un des fruits de votre action a été de faire adopter par l'UNESCO en 2017 une résolution.
Oui, c'est ça. On avait une charte qui était une charte autour de ces cinq thèmes que vous venez de citer. Et cette charte, il fallait lui donner en fait une dimension internationale. Et c'est ce que nous avons fait en déposant cette charte auprès de l'UNESCO, qu'il a adoptée par 195 pays, hein, qui ont applaudi ce jour-là. C'était donc le 29 novembre dernier. Et c'était un grand, grand moment, je veux dire. C'était la première fois que le sonore rentrait dans les préoccupations majeures de l'UNESCO, comme un élément de, je dirais, développement des peuples, quoi, tout simplement. Jusqu'à présent, on n'avait pas pris, en fait, cette dimension-là au sérieux.
L'UNESCO reconnaît que le patrimoine sonore, en fait, donc, est fondamental. L'environnement sonore relève du patrimoine de l'humanité, d'une certaine façon. Et la Semaine du Son, c'est donc au mois de janvier, en 2019, hein, on y reviendra, donc des centaines de manifestations dans toute la France et dans le monde d'ailleurs. Alors, d'une manière générale, quand on parle des sons, on parle souvent de l'aspect gênant, hein, de la réduction du niveau sonore. Mais votre travail, hein, Cécile Regnault, ça consiste à dire et à montrer que le son, eh bien, il faut l'entendre aussi pour ses aspects qualitatifs.
Oui, tout à fait. Et effectivement, le son, il révèle beaucoup de choses de notre espace de vie, notamment l'espace en tant que tel, l'espace acoustique. Le son, c'est d'abord de l'espace. Le son dit l'espace, il le module quelque part.
Oui, c'est-à-dire, en fait, concrètement, c'est une discipline qui est au carrefour de plusieurs disciplines, à la fois l'acoustique, l'architecture, l'urbanisme, la sociologie, la psychologie. Donc, vous travaillez avec des spécialistes de différents horizons ?
Oui, dans les écoles d'architecture, effectivement, c'est une composante essentielle. C'est le projet d'architecture et d'urbanisme ne se fait pas seulement d'un seul point de vue. On va chercher des compétences techniques, parfois, notamment là, par exemple, on fait travailler les étudiants sur la prise de son. On fait des prises de son à l'école d'architecture de Lyon et on restitue ce son à l'oreille des étudiants.
Eh bien, nous allons commencer par un exemple très concret, puisque hier, c'était le 11 novembre et puis, à 11h précise, pendant 11 minutes, toutes les cloches de France ont sonné. Christian Gonnet, alors ces cloches, pour vous, c'est un patrimoine sonore important.
Ah, parfaitement, oui. La cloche, c'est le repère absolu. C'est le repère d'un lieu, c'est le repère d'une situation, c'est le repère d'une heure, du temps, temps et espace, évidemment. Et en même temps, c'est plus que cela, c'est aussi le timbre, c'est la qualité, c'est le repère, c'est le retour au fondamental de ce qu'on entend naturellement avec nos oreilles. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un vrai souci, c'est que tout ce qu'on entend, on l'entend souvent à travers nos baladeurs et à travers les haut-parleurs, alors que là, on a quelque chose naturel, donc du coup on peut considérer qu'il y a là une référence à ne pas louper.
Il y a même une société française de campanologie, la campanologie, c'est-à-dire l'étude des cloches. Donc vous travaillez dans la semaine du son avec la société française de campanologie.
Alors peut-être que Cécile Regnault pourra en parler mieux que moi.
Alors Cécile Regnault, justement, ces cloches, vous en avez enregistré d'ailleurs parmi celles qu'on entend actuellement.
Oui, c'est vrai, en fait, en tant qu'architecte, moi depuis plusieurs années, en fait, je me suis intéressée à cet instrument de musique qui à l'échelle de la ville, un instrument de lutherie urbaine au final, qui peut justement révéler les lieux. Donc en fait, on a fait des inventaires campanaires pour garder la trace.
Donc vous avez enregistré des cloches de toute la France.
Alors, principalement, quelques régions. On peut pas dire que l'inventaire soit généralisé aujourd'hui, mais il y a une bonne partie des cloches qui sont.
Donc, est-ce qu'il y a des cloches qui sont en voie de disparition, par exemple, parmi des églises, par exemple, qui sont fermées, des cloches qu'on n'entendra plus jamais, qui ont un timbre particulier?
Alors, parfois, oui, on a des cloches, c'est des véritables antiquités sonores. On a une petite cloche, par exemple, dans le Jura, qui s'appelle la cloche du Piard, qui est une cloche de 1642, je crois. Elle est le témoignage finalement d'une écoute d'une époque passée, révolue, mais qui finalement a persisté. Et c'est peut-être un des témoins qui a cette capacité à pouvoir perdurer dans le temps, contrairement à d'autres sonorités qu'on perd très très vite. Il y a des activités par exemple industrielles qui des fois échappent à nos oreilles.
Oui, on y
oreilles.
Reviendra aussi, c'est-à-dire, comme le disait Christian Hugonnet, justement, la cloche identifie un lieu, le village, structure les relations sociales. Et puis, il y a des sons, même dans la vie quotidienne, par exemple dans ce trolleybus à Vaux-en-Velin, en banlieue de Lyon.
Prochain arrêt, pont des planches.
Donc ces sons peuvent paraître tout à fait banals, Christian Hugonnet, donc ce sont des sons du quotidien auxquels on ne prête même plus attention, mais vous, votre travail consiste à dire qu'il faut prêter attention à ces sons, ne pas simplement baigner dedans d'une manière totalement inconsciente.
Un son, c'est la vie, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction de cette émission, et puis savoir qu'une personne qui marche, par exemple, simplement le bruit de son pas, tout simplement, c'est pas moins de 24 signifiants sur la personne. Donc ça veut dire qu'on peut connaître son sexe, son poids, son intention, la nature des chaussures.
Le bruit ne sera pas le même si c'est un homme ou une femme qui est qui marche en haut talon, en basket.
Et en fermant les yeux, on peut avoir en fait une vision très très nette en fait du monde dans lequel on est, à travers simplement un son, une personne qui, encore une fois, se déplace. Alors, dans une ville, avec la rumeur qu'on connaît, avec le son de la ville qui nous environne, quelquefois, effectivement, on peut s'apercevoir que ces petits sons, si petits soient-ils, sont quelquefois masqués. Donc on a une perte de connaissance, précisément, de la personne à travers ces sons qui disparaissent.
Oui, c'est ces sons qu'on vient d'entendre, par exemple, dans ce trolleybus, structurent l'environnement, et finalement, ce que vous dites, c'est qu'on n'y prête plus attention, mais ils nous disent des choses de manière inconsciente. Et alors, justement, voici un autre exemple de d'ambiance sonore dont vous allez nous parler, hein, Cécile Regnault. Alors il s'agit d'une friche industrielle, hein, qui au départ était très bruyante. Ça se passe toujours en banlieue de ville, de grande ville, cette fois Antony, dans la banlieue parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Donc, et cette friche a été transformée en parc. C'est le parc des Alizés à Antony.
J'ai connu bien avant, c'était pas un parc, hein, c'était un terrain vague. Ça n'a jamais été un parc avant, hein, c'était un terrain vague. Donc il n'y avait pas d'aménagement sonore. Il n'y avait rien, donc il y a une amélioration qui est nette.
Moi, je vois beaucoup d'arbres, beaucoup de nature, nature sauvage, des animaux peut-être. Il laisse pousser les plantes comme ça à l'état sauvage, oui, je trouve que c'est très bien réussi. Il y a la nature et derrière, il y a l'autoroute avec les voitures. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas trop l'autoroute.
Le mur et la butte protègent bien du son, mais c'est une impression, j'en sais rien, pour de vrai.
On va tester, on va écouter en haut de la butte et redescendre en toboggan. En haut du toboggan, c'est parti.
Et on est monté en famille et puis quand on arrive en haut, il y a vraiment une attaque sonore, on peut dire, de toute l'autoroute. Alors on se dépêche de redescendre. Pour aller en bas, où c'est plus calme.
En bas, le son, c'est un seul son de fond et on ne distingue pas quand il y a un son qui se rajoute dessus. Donc c'est que le mur fonctionne, je pense.
Donc on avait un endroit très bruyant au bord d'une autoroute et puis maintenant un parc où les gens sont visiblement heureux d'exister, de se promener et d'entendre l'environnement sonore. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait, Cécile Regnault?
Alors il y a justement un gros travail, un gros enjeu sur ce parc, puisque au départ, effectivement, il n'était pas question justement de se couper de ce bruit de l'autoroute. Ça paraissait pour les paysagistes tout à fait normal de pouvoir construire un parc dans l'interstice entre la ville et l'autoroute, dans ces bandes résiduelles qu'on trouve fréquemment. Et là, en l'occurrence, effectivement, tout le travail de l'acousticien, puisque c'est un acousticien qui était à l'origine de ce projet, a réussi à convaincre une maîtrise d'ouvrage, a réussi à convaincre des architectes paysagistes pour construire une butte à l'image de la dune du Pilat. Il y avait tout un imaginaire.
La dune du Pilat, hein, près de Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas la région, c'est une grande dune. Décrivez-nous là un petit peu cette dune.
C'est une grande dune, en fait, qui a une topographie particulière. Et là, l'enjeu, c'était justement de ne pas construire un mur qui aurait coupé aussi...
Une dune qui est au bord de l'océan. Voilà. Et l'architecte, enfin l'acousticien, disait justement qu'il s'est inspiré de cela, puisqu'il passait ses vacances près de cette dune et quand il était petit, hein. Et puis quand on monte la dune, on n'entend pas le bruit de l'océan, et quand on est de l'autre côté, on l'entend très bien. Hein.
Tout à fait. En fait, l'objectif de cette butte, c'était de moduler le son de l'autoroute, mais pas complètement le couper, puisque justement l'autoroute elle existe, donc il faut pas s'en couper, forcément de manière radicale, mais plutôt de travailler justement sur des transitions un peu larges. Et donc ça, c'est vraiment le métier du concepteur sonore aujourd'hui, c'est d'arriver à travailler avec le son et non pas contre le son.
Alors justement, quand on travaille avec le son, il y a aussi une dimension très importante, c'est la dimension culturelle, puisque on n'a pas le même rapport avec le son selon qu'on habite en France, en Italie, en Afrique ou en Russie. Écoutons par exemple l'ambiance d'un marché en France, toujours à Vaux-en-Velin. Et cette fois, un marché en Afrique. Eh bien, Christian Gonès, là, vous évoquez quoi ces ambiances, puisque dans vos activités de président de la Semaine du Son, je le rappelle, vous avez beaucoup voyagé, et puis donc vous parlez du son aussi en intégrant cette dimension culturelle.
Oui, la dimension culturelle, elle est totalement impliquée dans ce sonore. Par exemple, nous avions, il y a quelques années, à Mexico, un thème qui était celui du bruit et de la violence. Donc on avait fait le lien entre bruit et violence, en quoi le bruit pouvait aussi générer la violence. Donc autant vous dire que la notion du sonore est une notion extrêmement forte. Donc l'ambiance qu'on a sur un marché, comme celle que vous faites entendre, est une ambiance extrêmement forte et plaisante, mais pas forcément plaisante pour tout le monde. Encore une fois, elle est plaisante parce que, et on revient sur cette notion de bruit, à partir du moment où on l'accepte, le bruit devient sonore et devient un lieu effectivement de compréhension du monde. Mais si on le refuse,
diffuse, à ce moment-là, ça devient du bruit.
Oui, d'une manière générale, on peut dire quand même que dans les pays du sud, plus méditerranéens, on a tendance à extérioriser davantage les sons que dans les pays du nord. C'est une règle un peu générale quand même.
Oui, absolument. Bah, oui, on s'exprime plus facilement, on est moins taiseux dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, quoi. Bien que les taiseux du Nord sont des gens qui sont plus facilement musiciens, par exemple. Il y a beaucoup de musiciens, par exemple, du côté de Bruxelles et au-delà de Bruxelles. Donc, dans les pays du Nord, comme on dit, les gens sont quasiment tous musiciens à 100%, alors que dans le Midi, un peu moins. Donc, vous voyez, chacun, effectivement, a son approche.
Quels sont les enjeux sociaux de l'environnement sonore? C'est notre question du jour. Petite pause musicale avec Emilio Morales.
Écoutez RFI autour de la question.
Quels sont les enjeux sociaux de l'environnement sonore avec Cécile Regnault, professeure en architecture et urbanisme à l'école d'architecture de Lyon, et Christian Hugonnet, ingénieur acousticien et président fondateur de l'association La Semaine du Son. Donc Christian Hugonnet, vous parliez des relations entre son et violence, hein, et justement, c'est-à-dire que le son peut influencer inconsciemment nos comportements. Par exemple, écoutons cette ambiance sonore dans un parc où des morceaux de bois ont été disposés sur le sol, une sorte de grand xylophone de sol. Donc là, ce sont des enfants qui marchent et qui jouent à la balle, Cécile Regnault. Donc vous connaissez cette installation.
C'est effectivement, moi j'appelle ça le caillebotis sonore en fait. C'est un mobilier à la base de jeu, mais en fait qui est devenu maintenant quelque chose d'assez courant dans les parcs où on peut justement se faire plaisir en parcourant et en faisant finalement. Le pas est mis en avant finalement dans ce rapport. À l'espace. Ce petit parc, là on est dans le parc Sutter à Lyon, c'est un parc un peu intime, donc on a une acoustique plutôt...
C'est-à-dire que les enfants donc s'amusent à faire du bruit, hein, là, du son en tout cas. On n'est pas dans la recherche absolue du calme le plus parfait.
Absolument pas en fait. L'idée là c'était justement, c'est dans ce parc où il se passait pas grand-chose, c'est trouver une forme d'identité aussi de ce lieu. Et ce jeu est un élément rassembleur, en fait. Le son est rassembleur.
Le son est rassembleur, c'est-à-dire, en fait, les gens tissent davantage de relations grâce au son.
En quelque sorte, en fait, c'est vrai qu'il est placé aussi à proximité d'une crèche. C'est un passage presque obligé pour les enfants qui passent à l'école. Et en fait, c'est à la fois, enfin, il y a une attention aussi qui a été portée très grande sur la qualité sonore. En fait, quand on fait du bois au sol, souvent on le pose de manière classique, en serrant. Donc le bois ne sonne pas. Là, on a porté une attention pour que le bois résonne.
Oui, le sol devient un instrument de musique. Hein, Christian Hugonnet.
Oui, et ce qui est très intéressant dans cette opération, c'est que l'enfant devient acteur. C'est-à-dire qu'il devient lui-même émetteur de sons. Hein. C'est-à-dire que c'est une chose que d'écouter des sons, c'en est une autre que de les émettre. Et quand on est émetteur, quand on est constructeur de sons, quand on est donc musicien d'une certaine manière, constructeur de sonorités, à ce moment-là, on devient acteur véritablement. On est plus fort, on se sent effectivement impliqué beaucoup plus que quand on est uniquement dans l'écoute. Je voulais insister là-dessus parce que c'est une vraie notion aujourd'hui qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Il y a de moins en moins de musiciens en France et dans le monde, d'une manière générale d'ailleurs. On ne joue plus, on ne fait qu'écouter de la musique. C'est quand même grave.
Oui, mais alors pour ce qui est des bruits de l'environnement sonore, par exemple avec ses enfants, est-ce qu'il ne faut pas un compromis d'une certaine façon, puisque vous-même, hein, Christian, vous disiez que si le son est trop important, si le niveau est trop important, il peut y avoir une augmentation de la violence, de l'agressivité.
Oui, les sons qui nous entourent, quand ils ne sont pas maîtrisés, ils peuvent être de faible amplitude. Ce n'est pas un problème de niveau sonore, c'est un problème tout simplement de son non désiré. Et par son non désiré, on pense surtout aux des lieux où il n'y a pas d'absorption, il n'y a pas d'absorption acoustique, il n'y a pas de traitement acoustique. Je pense aux gares, par exemple, qui sont souvent des catastrophes. Là, on en vient de construire 4 gares, Saint-Lazare, Montparnasse, gare de Lyon, etc., qui sont toutes des gares qui restent encore extrêmement bruyantes. Donc du coup, les gens se sentent tout simplement déportés, en fait. Ils sont pas concentrés, quoi. Ils perdent leur concentration et du coup, ils deviennent effectivement agressifs parce qu'ils perdent leur identité.
C'est-à-dire que plutôt que de raisonner en termes de son fort ou faible, il faut raisonner en termes de son désiré ou non désiré davantage. Hein. C'est bien cela. Cécile Regnault, vous êtes tout à fait sur la même longueur d'onde.
Oui, tout à fait. L'idée aussi, c'est l'appropriation. En fait, on parle beaucoup de cette dimension-là quand on fait de l'urbanisme aujourd'hui. C'est comment construire des lieux où les gens vont pouvoir justement se sentir bien et puis pour avoir plaisir à revenir. Et la place de l'enfant aujourd'hui dans la ville est un peu... On l'a un peu relégué dans des zones à parquer, etc. Là, l'idée, c'est d'ouvrir en fait la possibilité aux enfants de participer à une activité plus large en fait dans ce parc qui est habité par plein de gens.
Oui, mais c'est quand même toujours une question d'équilibre puisque alors à force de vouloir toujours lutter contre le bruit, on crée des environnements morts, silencieux, aseptisés. Hein. Mais cela dit, on a quand même aussi besoin de silence. Alors on parle plutôt de zone calme que de zone silencieuse.
Oui, tout à fait.
Alors, Christian, vous voulez nous dire un mot sur ces zones calmes, justement, puisque vous travaillez beaucoup là-dessus avec la Semaine du Son.
Oui, on est contre le... Il ne s'agit pas... Écoutez, il faut un minimum de bruit pour exister. C'est important de le dire quand même. Donc 40 décibels, pour ne pas être tout à fait trop technique, 40 décibels, c'est une voix à chuchoter, vous voyez. Donc une ambiance à 40 décibels, bon, bah, ça fonctionne très bien, ça gêne personne et ça permet de continuer à discuter. C'est ce qu'on n'a pas d'ailleurs sur beaucoup de places publiques, notamment on en parlera peut-être tout à l'heure, place de la République. Autrement dit, il y a des places effectivement où on ne peut plus s'exprimer. Là, c'est un vrai problème parce que le bruit est trop fort. Hein, donc c'est ça en fait le bruit. Mais on a besoin d'avoir un bruit de fond permanent, un bruit de fond qui nous habite aussi parce que le silence total est une vraie catastrophe et ça rend là aussi peut-être, ça peut rendre agressif aussi un silence absolu.
Oui, Cécile Regnault, vous me faisiez part en préparant cette émission d'une citation du philosophe Nietzsche hein, et qui dit qu'il faut de nouveaux lieux qui ne soient pas des églises, des lieux donc sans religion où l'on peut se ressourcer au sein des villes. Donc c'est une phrase qui vous inspire dans votre travail ?
Ah, beaucoup, parce qu'en fait, je pense que quand je conçois un lieu, il me semble qu'il y a ce besoin fondamental chez l'humain, en fait, d'avoir aussi des lieux de... Moi, j'appelle ça des lieux de réserve, en fait, où on peut se retrouver. Alors, ils ne sont pas forcément, en effet, complètement silencieux, parce que justement, sinon, c'est un petit peu le désert et la mort qui est annoncée. Mais en revanche, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable d'imaginer à l'image effectivement des lieux de culte où c'est des lieux de retrait en fait, où on peut aller méditer, prendre le temps de se décaler, de se décadrer par rapport à la vie active de la ville. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, enfin les architectes et les urbanistes, de penser des lieux de cet ordre-là qui soient effectivement œcuméniques, on va dire.
Christian ?
Oui, je voulais simplement préciser que le silence, j'utilise le terme de micro-silence pour ne pas faire peur à tout le monde, parce que les silences, c'est toujours un peu difficile à accepter pour beaucoup de gens, mais les micro-silences et les silences courts sont des moments de réflexion extrêmement importants. Si on nous prive effectivement de ces moments de réflexion, on n'a plus cette capacité à réfléchir. Quand même.
Donc la prise en compte du son, c'est un défi pour les architectes, les urbanistes. Hein. Et écoutons justement alors cette interview de l'architecte Roland Castro qui parle de la place de la République à Paris. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est une place qui aujourd'hui est un lieu de rassemblement où diverses manifestations se tiennent.
Qu'est-ce qu'une place ? Disait un architecte au moment de la révolte de Tiananmen, la place. C'est le lieu de l'insurrection toujours possible. Dans une ville, c'est ça, une place. C'est une bonne idée qu'on puisse s'entendre. Hein, Jaurès sans micro. Hein, comment on fait pour entendre Jaurès sans micro ? Il n'y a pas de micro, le mec. Et donc, cette question du rapport entre le bruit et la parole, c'est pas pour faire une ville aseptisée dans laquelle il n'y a plus de bruit, ou une ville d'abrutis dans laquelle tout le monde a les trucs sur les oreilles et donc personne ne parle plus à personne avec son programme programmé. C'est vraiment de réfléchir à cette question, y compris dans la manière dont les choses sont faites.
Donc Roland Castro nous dit que cette place de la République, elle a été conçue sans tenir compte du son, et pour lui, donc c'est une erreur. Alors Christian Hugonnet, vous la connaissez bien cette place.
Oui, alors on fait référence à une intervention qui est de Roland Castro la semaine dernière à l'UNESCO, donc pour la conférence de presse de la semaine du son, où il s'exprimait, parce qu'il est parrain de la semaine du son cette année, et précisément, il s'exprimait sur cette place qui est un non-sens dans la mesure où on ne s'entend pas. C'est-à-dire que une place est quand même le lieu où on doit pouvoir être capable d'avoir une discussion, de pouvoir parler entre nous. Et c'est vrai que cette place, elle est dans le bruit permanent, elle est dans une espèce de rumeur permanente, avec des voitures qui circulent sur une asphalte.
Disons, pour ceux qui ne connaissent pas, avant c'était quand même encore pire, puisqu'il y avait que des voitures. Maintenant, donc, il y a les voitures quand même autour, disons, sur une certaine partie, mais au milieu, ce sont sans cesse des rassemblements de tous ordres. Hein. Mais malgré tout, il y a quand même encore beaucoup de bruit, c'est ça que vous voulez dire, hein.
Non, c'était pas pire avant.
Mais il y avait des voitures qui tournaient tout autour de la place, quand même, non ?
Oui, certes. Mais il y avait aussi un peu de terre. Il y avait du terreau, il y avait de la terre. Il y avait de la terre. On l'a supprimé. On a mis ce qu'on appelle évidemment du minéral.
Alors, oui, mais
les architectes adorent cette notion-là.
Mais personne ne pouvait se rassembler avant. Tandis que là, on en a fait une zone piétonne où on peut se rassembler sans arrêt. Vous pouvez avoir à gauche de la place une manif sur les migrants, pour les migrants. À droite, une autre manif pour les véganes, etc. Et comme ça, 5 ou 6 manifs en même temps.
Certes, mais des gens qui se rassemblent, qui n'arrivent pas à s'entendre, ça pose un problème. Et c'est ce qui s'est passé avec Nuit Debout. Enfin, les soirées Nuit Debout, c'était catastrophique. On n'entendait rien et les gens ont fini d'ailleurs par arrêter, parce que je crois que cette nuisance sonore les a vraiment étouffés.
Donc le mouvement Nuit Debout aurait peut-être duré plus longtemps si le son était meilleur.
Je le pense.
Meilleur.
Je le pense vraiment.
Sans doute. Alors justement, Cécile Regnault, est-ce que vous avez l'impression que les architectes et les urbanistes aujourd'hui tiennent davantage compte du son, de l'environnement sonore qu'il y a quelques années, ou pas du tout ?
Alors, c'est difficile de faire des statistiques, mais en revanche, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est là. Aujourd'hui, moi, je le vois chez les jeunes, en fait, par rapport à... ils savent qu'en fait, ils ont une action possible. L'action possible, elle est simple, en fait. On vient d'en parler tout de suite. Finalement, quand on construit la ville, quand on dessine la ville, on dessine des surfaces. Des surfaces de façade et des surfaces de sol. Et c'est là-dessus qu'on peut agir. Et effectivement, il y a une fâcheuse tendance aujourd'hui à avoir des surfaces tellement réverbérantes minérale et on a peut-être pas assez de matière.
Ça manque de terre, comme disait Christian Gueule.
Ça manque de terre. Hein. Alors on va
c'est que pas... la terre est beaucoup plus absorbante que la pierre ou le béton.
Alors que en fait parfois ça serait pas un problème d'avoir justement des surfaces. Dans les pays du Nord notamment, on a des ensembles urbains qui sont absolument mieux pensés de ce point de vue-là.
Si on végétalisait davantage la ville, finalement l'environnement sonore serait sans doute meilleur d'une certaine façon.
Oui, en faisant attention quand même au fait qu'une feuille, n'a jamais été un absorbant. Vous voyez, donc un arbre n'absorbe rien du tout. Hein. Donc par contre, on pourrait imaginer des sols qui seraient des sols tamis, par exemple, qui seraient des sols d'absorption sur des places publiques, par exemple. Ça serait génial, on n'a jamais imaginé ça. On pourrait même imaginer également des murs de façade qui auraient un angle de 3 ou 4 degrés l'un par rapport à l'autre, qui ferait que le son partirait vers le haut, par exemple, et ne resterait pas stabilisé au niveau du sol.
Ah, il y a encore énormément de choses à imaginer. Hein. Quels sont les enjeux sociaux de l'environnement sonore? Petite pause avec Zebda, le bruit et l'odeur.
Autour de la question sur RFI.
Si je suis tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y avait pas d'olto. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse. À ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre si joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise ceux qui flinguent les mormons comme pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse. Je suis un érudit et je vous dis,
je suis un beau croate et musulman, voilà le hic. En fait, en polonais, républicain.
Donc c'était Zebda. Alors nous n'avons pas l'odeur, mais nous avons le bruit par contre, hein, puisque nous sommes en train de nous interroger sur les enjeux sociaux de l'environnement sonore, donc avec Cécile Regnault, professeur en architecture et urbanisme à l'école d'architecture de Lyon, et Christian Hugonnet, acousticien, ingénieur acousticien, également président fondateur de la Semaine du Son. Dans l'environnement sonore, il y a aussi une dimension artistique. Par exemple, il y a des objets, des œuvres d'art qui sont installés dans l'environnement, telles que ces éoliennes que nous entendons près d'une aire d'autoroute. Cécile Regnault, vous avez travaillé sur ces éoliennes?
Oui, il y a quelques années, effectivement, avec la Sirène, on a...
La Sirène, c'est-à-dire, c'est oui. L'association dans laquelle vous travaillez,
tout
hein,
à fait,
c'est
l'association d'un groupement professionnel pluridisciplinaire qui s'intéresse à la question du fait sonore dans la société et qui, on a imaginé, pour des lieux qui étaient plutôt vides, de son, justement.
Mais décrivez-nous ces éoliennes, par exemple.
Alors, ces éoliennes, ce sont des... En fait, l'idée, c'était que quand on sort de sa voiture, en fait, sur l'autoroute, on a souvent un bruit assez intense, à peu près 70 décibels, ça dépend des voitures, mais enfin 60 à 80 pour certains. Et c'était de trouver un moyen de faire en sorte que quand on sort de la voiture, on peut se ressourcer avec autre chose.
Donc ce sont comme des jeux, hein, ce ne sont pas des éoliennes qui produisent de l'électricité.
Non, hein. non, du tout. Ce sont des éoliennes sonores. En fait, il y a des cloches tubulaires, il y a des.
Qui bougent avec le vent et qui font du bruit de la musique en bougeant avec le vent.
Le plus doux possible pour ne pas justement déranger. Alors là, il se trouve qu'on avait mis des cloches tubulaires parce qu'on était dans un site aussi, enfin, on s'était inspiré du lieu.
C'est une façon d'impliquer justement le citoyen dans son environnement sonore. On peut jouer, on peut faire bouger ces cloches. Par exemple.
Alors là, en l'occurrence, c'était le vent qui les.
Ah, c'était le vent uniquement.
Mais on pouvait les stopper. En fait, il y avait un système de quand il y avait trop de vent. Voilà.
Écoutons justement alors cet autre extrait, le pavillon des guetteurs de son, une autre installation que vous avez aussi produite. C'est à Quetigny, près de Dijon. De quoi s'agit-il, Cécile Regnault? Ce sont des balles qui rebondissent sur des tambours.
Tout à fait, des steel drums en fait, en métal, qui ont été façonnés vraiment par un artisan ferronnier.
C'est où? C'est dans la rue? C'est
alors,
sur une
place?
Alors
non, du tout. En fait, ce mobilier, on est dans un grand parc urbain qui était donc au-dessus de, effectivement, à Quetigny. Donc c'était un grand ensemble, où il n'y avait pas grand-chose en fait, finalement, à part les avions de la zone aérienne qui
Ce sont les enfants qui envoient leurs balles sur ces grandes plaques métalliques.
Le son,
comment est-il produit?
C'était une grande sculpture, un grand végétal. Et le son était produit en fonction d'un capteur en fait, qui captait l'humidité, le soleil, l'ensoleillement,
etc. Le soleil, l'humidité qui produit ce son.
C'est ça. Et puis après, il y a une horloge aussi. Parce qu'en fait, comme c'était aussi un donneur de temps, c'est un lieu où il n'y a pas d'église. Donc on n'avait pas le référent.
Alors les promeneurs, ils entendent ces sons. Comment ils réagissent?
En fait, c'est assez éloigné des... Alors, pour les promeneurs, effectivement, ils peuvent aller s'asseoir dessous, comme on va s'asseoir sous un arbre, en fait.
Une sorte d'arbre sonore.
Voilà, mais qui part en continu, en fait. On a des temporalités. C'est peut-être ce dont on n'a pas beaucoup parlé. Pour l'instant, encore, le son, c'est aussi du temps. Et qu'il faut penser, quand on pense à l'installation de mobilier sonore de cet ordre-là dans l'espace public, il faut aussi imaginer justement qu'ils aient des temps comme les saisons. Donc là, en l'occurrence, ce grand végétal, il se refermait à l'automne et il ne se passait rien l'hiver.
Ah oui, donc
en fait.
Il ne produit pas le même son selon
l'hiver,
les saisons.
L'hiver, l'été, selon les saisons, selon justement l'ensoleillement, selon le degré d'humidité. Donc ces capteurs permettaient justement d'avoir une variabilité. Et on avait choisi ces tambours parce que justement, on avait toute une communauté, une grande diversité de communautés. On était parti sur ces steel drums en fait, qui permettaient de se rappeler des sonorités, peut-être plus africaine, référence aux gens qui habitaient ce quartier. En fait.
Justement, alors Christian Gonnet, dans la semaine du son, vous travaillez beaucoup avec des musiciens, des artistes, donc cette composante musicale de l'environnement sonore, cela vous parle?
Oui, et ça me fait penser à un enregistrement qu'on avait fait en Indonésie, c'est quelques années de cela, à 3h du matin, dans une clairière, les gens étaient en des gamelans qui étaient installés comme ça au milieu de la clairière, et le chef d'orchestre, qui donc officiait, on enregistre, et à un moment donné, j'entends des bruits qui venaient de la forêt, comme ça, des craquements, comme ça, et j'arrête évidemment l'enregistrement, j'ai dit, écoute, il faut arrêter, et le gars me dit, mais pas du tout, surtout pas, ce sont des musiques, ce sont des sons qui sont intégrés dans nos sons de gamelans. Et on était ridicule, évidemment.
Mais comment ils produisaient ces sons, alors?
Mais, à un moment donné de la nuit, à un moment donné bien particulier, il y a un moment où les fleurs se referment.
Ce sont des bruits de la nature, en fait.
Ah oui, c'est des fleurs qui se referment. Et au moment où elles se referment, précisément, elles émettent un bruit particulier. Et ce bruit est intégré dans la musique du gamelan.
D'accord. Des fleurs qui se referment et font du bruit en se refermant.
Qui émettent un son bien particulier.
Qui émettent un son très particulier qui est intégré dans la musique.
Alors, autant vous dire, nous, occidentaux, on était complètement ridicules, quoi. Donc, on pensait que c'était un bruit.
Alors, justement, est-ce que vous pensez que certaines populations ont un autre rapport avec l'environnement sonore, plus proche de la nature dans...
J'en suis persuadé. Je pense que vraiment, quand tu disais tout à l'heure en début d'émission qu'on était rétinien, oui, je pense que véritablement, on a oublié d'écouter. L'écoute, c'est notre rapport à la nature, hein, c'est notre rapport. On ne fait qu'entendre, je veux dire, à 360 degrés, alors qu'on l'œil ne voit que sous 60 degrés d'angle, hein, faut pas l'oublier. Hein. Donc, on a des civilisations, et je pense à toute l'Afrique, notamment, qui est un lieu véritablement où on écoute. D'ailleurs, le griot, par exemple, est un homme qu'on
qu'on entend, qu'on écoute avec, avec beaucoup de plaisir. Et toute la culture se fait par le sonore, là encore. Nous avons peut-être un tout petit peu oublié cette dimension-là.
Alors le son, hein, c'est la temporalité, la dimension artistique, mais c'est aussi la mémoire, hein, puisqu'il y a des sons qui disparaissent de notre environnement. Cécile Regnault, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez notamment enregistré ces sons d'un lavoir à charbon à Monceau-les-Mines avant sa fermeture. Donc il y avait du charbon qui passait là. Pour le commun des mortels, ces sons ne représentent que du bruit. Mais pour les gens qui ont passé leur vie là-bas, c'est autre chose. Hein. Ce sont des sons très affectifs, Cécile Regnault.
Oui, certainement. En plus les enregistrements sonores, en fait, l'intérêt de conserver justement la mémoire de ces sons disparus. Là, on est allé enregistrer la veille de la fermeture de ce fameux lavoir à charbon, qui était un immense site, hein, 8000 mètres carrés, avec... énormément de personnes qui ont travaillé pour trier le charbon. En fait, l'avoir à charbon trie le charbon. Donc il y a des rails aussi, il y a beaucoup de déplacements de mobilité dans cette usine. Et effectivement, les gens qui travaillaient là, donc on les entend pas sur ce fragment là, parce qu'on en entend plutôt des chariots qui roulent, c'est aussi ça le son a cette capacité à garder cette mémoire, ce que ne fait pas l'image. Il y a eu toute une série de photographies prises effectivement aussi, mais il y a moins de présence de l'activité à travers la photographie que ce qu'on peut avoir à travers le document audio, en fait.
Mais les mines aujourd'hui ont fermé, en tout cas Monceau-les-Mines, hein. Mais les gens, quand ils parlent de ces sons, quand ils parlent de leur activité professionnelle, est-ce qu'ils évoquent les sons? Est-ce qu'ils ont des émotions particulières liées justement aux sons, à ces sons disparus, qui ne reviendront plus jamais puisque les mines ont fermé?
Mais le son est aussi un indicateur, des fois, dans le travail, en fait. Il permet d'avoir un geste plus précis, de savoir si la machine tourne bien. Ils ont plein de choses à dire là-dessus. En fait, le son, il est indicateur de tout un tas de gestes qu'on fait au quotidien, et notamment dans nos travails. Alors, il y a plein de métiers qui ont cette capacité-là, mais en l'occurrence, sur cet exemple, c'est assez frappant quand on utilise... Alors, les sons sont maintenant à l'écomusée du Creusot, pour justement être...
Bon, un musée de son, d'une certaine façon, Christian Hugonnet.
Oui, on peut citer aussi tout le travail qui est mené aussi par les ingénieurs du son, notamment en forêt amazonienne, en forêt équatoriale, pour s'apercevoir que ces sonorités d'oiseaux et d'animaux qui sont en train de disparaître, c'est aussi une évolution pas très positif de la forêt en question. Donc, précisément, le sonore de ces lieux-là est un indicateur très, très important de l'évolution de ces forêts.
Est-ce que vous avez l'impression que, d'une manière générale, il y a un appauvrissement du paysage sonore au fil du temps ?
Oui, la rumeur de la ville, en tout cas, oui. En situation urbaine, on peut dire que oui. L'ambiance urbaine, on peut dire qu'au 19e siècle, on avait du bruit, mais ce bruit était suivi d'un silence, si je puis dire. Donc les charrettes dans la rue faisaient du bruit, mais derrière, il y avait du silence. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a en fait un continuum sonore, ce que j'appelle un linceul, et qui a tendance un peu à tout masquer. C'est un peu le problème, en fait, de notre nuisance actuelle, qui reste continue par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années.
Alors justement, c'est une très bonne transition, puisque pour illustrer cette émission, vous nous avez proposé d'écouter des jouets d'enfants. Alors Christian Gonnet, pourquoi ces jouets d'enfants comme illustration justement de cette émission sur l'environnement sonore?
Parce que à la semaine du son, nous avons mis l'accent une année sur ces jouets pour enfants qui étaient des catastrophes totales sur le plan musical. D'abord, ça s'appelle des jouets dits sonores, mais qui n'ont rien de
musical. Ce n'est pas très agréable, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas très agréable à écouter.
C'est nul. Tout simplement, c'est la nullité totale. Je veux dire, il n'y a pas de basse, il n'y a pas d'aigu. C'est très compressé, c'est-à-dire que ça ne respire pas. Il n'y a pas de niveau faible, il n'y a pas de niveau fort. Tout reste un petit peu comme ça, continue.
une sorte de continuum, et qui se glisse dans l'oreille de l'enfant, alors que l'enfant n'a rien demandé à qui que ce soit, je veux dire, il arrive au monde, et on le met ça au-dessus des berceaux, et je pense que c'est une catastrophe par rapport à ce qu'on entendait des mamans qui chantaient leurs enfants, tout ça. Et on a tendance à utiliser ces jouets comme, évidemment, des bouches-trous, des moments effectivement, de manière à accaparer l'attention de l'enfant, mais en fait, on détruit en même temps sa manière d'écouter.
Ce que vous voulez dire, en fait, hein, c'est qu'on déforme son audition dès le plus jeune âge, oui. En lui faisant entendre des sons qui ne sont pas assez travaillés, qui sont tous alignés sur la même tonalité, le même timbre, le même niveau sonore, sans modulation, sans nuance.
Sans nuance. Donc, ces sons restent sans nuance, puis ensuite, l'enfant va aller sur des jeux vidéo, il va aller sur la radio, il va aller sur la télévision, et tout va être là aussi très compressé. Tous les CD aujourd'hui sont recompressés deux fois, de manière à ce qu'il n'y ait plus de niveau faible, de manière à ne plus rentrer à l'intérieur de ce bruit permanent dans lequel on est, pour ne pas être masqué, si je puis dire. Donc pour être toujours au-dessus de ce bruit ambiant, eh bien, les sons sont alignés vers le haut en permanence. Et tout cela a des implications, on l'imagine, sur le comportement, mais aussi sur l'évolution de notre perception auditive.
Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez quand vous rencontrez, par exemple, des enfants, quand lors de la semaine du son, vous avez des interventions aussi dans des classes?
Oui, quand l'enfant dépose son casque, il lui-même se met à parler compressé.
Parler compressé, c'est-à-dire, ça veut dire quoi?
Mais il parle comme ça, et donc, en fait, sans laisser beaucoup de silence, et en fait, on reste comme ça sur un niveau sonore continu.
Oui, on n'a pas de variation, on parle toujours fort, et sans faire de pause, de micro-pause, justement. Et Cécile Regnault, justement, d'une certaine façon, c'est une éloge de la subtilité, de la nuance acoustique, en fait, qu'il faut développer.
Moi, je pense que c'est essentiel aujourd'hui que justement je vais prendre un exemple chez les architectes. Ce que je leur dis toujours, c'est que pareil, vous construisez vous utilisez de la matière pour faire un escalier, par exemple. Mais pourquoi est-ce que justement quand on monte l'escalier, on peut pas avoir justement une belle sonorité du garde-corps, c'est un soin apporté à la manière dont on va monter cet escalier.
Mais même un escalier, c'est sonore finalement.
Complètement, c'est sonore.
Oui. Et oui, Christian.
Oui, peut-être aussi dire une chose, c'est que cette manière de parler dont on parlait tout à l'heure, qui est sans pause, sans micro-silence, fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne se parlent plus, ils parlent. Autrement dit, on ne fait qu'émettre, comme on envoie des SMS, vous voyez, on ne balance, ne fait que balancer, on balance, et on se pose pas la question de savoir si l'autre comprend ce qu'on lui raconte. Et on s'en fout totalement, quoi. On balance, quoi. Voilà.
Je crois que c'est le compositeur John Cage qui disait justement, si un son te gêne, écoute-le. Vous êtes d'accord avec cette Maxime, il faut écouter même les sons qui nous paraissent a priori gênants.
Oui, pour les intégrer, pour les comprendre, pour les assimiler, oui, ça me paraît tout à fait normal, et pour en faire justement des éléments amis, précisément.
Alors justement, nous arrivons à la fin de cette émission, Christian Huguenin. Alors il faut rappeler la semaine du son, donc c'est en janvier. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit alors.
C'est une semaine du 21 au 27 janvier, c'est à Paris, et ensuite du 27 à la semaine, toute la semaine d'après, dans toute la région, dans plein de régions de France, on est dans 80 régions de France, et on va travailler, on va amener en fait une prise de conscience du sonore à travers 5 thèmes, on en a parlé tout à l'heure, l'environnement sonore,
donc ce sont des conférences,
des rencontres, des concerts, des screenings, des projections, et tout ça c'est gratuit.
C'est gratuit à l'UNESCO aussi, donc il y a une grande soirée.
Deux belles journées à l'UNESCO, avec Costa, Roland Castro, donc ça sera le 22 janvier, une après-midi entière dédiée effectivement au son comme déclencheur de l'urbanisme, en quoi le son peut nous amener à voir aujourd'hui différemment l'urbanisme et l'architecture, mais à condition de le prendre en considération avant, pas après. Et puis nous aurons une belle soirée, là c'est gratuit, hein, c'est ouvert au public, et une belle soirée également qui se fera avec Jordi Saval, qui est notre autre parrain, avec une très belle soirée musicale sur des œuvres de Rameau, de Télémane, et ça va être extraordinaire.
Et la semaine du son, c'est aussi dans d'autres pays, hein. Il y a le Mexique, l'Argentine, et peut-être même Abidjan aussi en prévision.
Abidjan, on y travaille en ce moment, on avait déjà eu une année à Abidjan, on va redémarrer cela avec l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, qui est en train de faire en sorte que nous puissions réaliser une semaine du son à Abidjan.
Cécile Regnault, un petit mot très court de conclusion. Silence, c'est
oui,
parfait.
Silence.
Et voilà, c'était une seconde de silence pour cette émission sur les enjeux sociaux de l'environnement sonore. Cécile Regnault et Christian Huguenin, merci. C'était autour de la question avec Hugo Violas et la réalisation. Sophia Bédard en coulisses, portez-vous bien. Merci de votre fidélité. Et dans quelques instants, les infos sur RFI.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.